Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Ouais, je suis très fier de ce générique Enrique qui m'a été créé par Léo. Alors tout à l'heure, tu as dit que tu allais fêter tes 8 ans, c'est ça, l'antenne de Graphite ? Moi, je démarrais en 2008, donc ça fait combien ? 17 ans. Et donc au bout de 17 ans, la direction de Graphite a souhaité que mon émission ait enfin un générique. Je suis très fier et je te remercie. Si, j'en profite. Nous sommes en direct. Je suis très heureux de vous retrouver. Je m'appelle Jean-Noël. C'est l'émission Biotine. Donc, tous les samedis, entre 12h et 13h, on parle de l'actualité scientifique. Il y a beaucoup de choses qu'on va évoquer. Effectivement, aujourd'hui, j'ai peur de ne pas pouvoir avoir le temps de tout vous raconter, mais ça n'est pas grave. Il fait très, très beau sur Compiègne aujourd'hui et c'est vraiment agréable. Enrique, il ne faut pas oublier de dire que toutes les émissions de Graphite sont téléchargeables par podcast sur le site internet graphite.net. Pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que demain, je vais télécharger l'émission VibraSOS d'aujourd'hui, parce que demain, ils annoncent un temps dégueulasse. Et donc, du coup, on aura un petit peu de soleil avec cette émission géniale que tu viens de nous animer, avec plein de superbes musiques qui me font toujours dépasser le 110 km/h sur la rocade de Compiègne. Parce que, je ne sais pas, il y a une espèce d'entraînement qui se fait quand on écoute cette émission. Oui, il fait très beau sur Compiègne, sur la région parisienne aujourd'hui, et c'est tant mieux. Demain, c'est le Paris-Roubaix qui sera donc sous la flotte. Ça va être sympa hein, pour les cyclistes. Hein, ils vont pouvoir un petit peu déraper sur les pavés, je pense. Ça va être assez intéressant. Biotine, tous les samedis, entre 12h et 13h. Aujourd'hui, nous sommes le 12 avril. Au niveau de l'éphéméride, le 12 avril 1831, il y a un pont en Angleterre, qui est le pont de Brunton, qui a été détruit en 1831 d'une façon assez originale par un phénomène de résonance mécanique. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y avait des soldats qui marchaient au pas sur le pont, et comme ils marchaient au pas, le pont n'a pas résisté à l'impulsion des pas de ces soldats. Et tous ceux qui ont fait leur service militaire, et j'en fais partie, savent très bien que sur un pont, on ne doit surtout pas marcher au pas, et on doit marcher en pas décalé, ce qui est un peu compliqué quand on n'a pas nécessairement le rythme dans la peau, voyez-vous. Et ça date de... Enfin, tout ça date de ce qui s'est passé en Angleterre en 1831. Le 12 avril 1961, date très importante, le soviétique Yuri Gagarin devient le premier homme à effectuer un vol dans l'espace. C'était au cours de la mission Vostok 1. Et 20 ans plus tard, en 1881, c'est le premier vol d'une navette spatiale américaine qui s'appelle Columbia. Effectivement, Columbia avait quand même pas mal travaillé pendant au moins une bonne vingtaine d'années. Naissance le 12 avril 1884 d'Otto Fritz Meyerhoff. Meyerhoff, c'était un médecin, c'était un biochimiste qui avait la nationalité allemande, pardon, parce qu'il est né à Hanovre, et puis il a été naturalisé américain par la suite parce qu'il est mort à Philadelphie. Il a reçu avec d'autres collègues le prix Nobel de médecine en 1922 pour des recherches qu'il avait mené sur le métabolisme musculaire concernant la glycolyse. La glycolyse, ça se passe dans nos cellules et quelque part, si on, comment dire, on schématise, c'est utiliser le glucose, donc le sucre, pour pouvoir produire de l'énergie. Et ça s'appelle la glycolyse, donc c'est la destruction du sucre par la cellule pour pouvoir ensuite produire de l'énergie. Et cette glycolyse, tous ceux qui ont fait des études un peu approfondies en chimie, biochimie, biologie, on appelle ça la voie d'Ebden-Meyerhoff-Parnasse. Et c'est donc là, Meyerhoff, il vient, c'est ce nom de ce médecin et biochimiste qui a donné donc une partie de, qui a donné son nom, pardon, à une partie de ce phénomène biochimique qui se réalise dans nos cellules. Meyerhoff, effectivement, était quand même un grand scientifique qui a vraiment apporté pas mal de connaissances dans ce domaine-là. Et c'était assez normal d'évoquer, voilà, sa naissance un 12 avril. Décès le 12 avril 1902 d'Alfred Cornu. C'est un physicien français qui a appliqué ses connaissances de géométrie différentielle. Tout ça pour essayer de perfectionner plusieurs instruments scientifiques, des mécanismes de précision, des mécanismes d'imagerie. Donc c'est vraiment des choses assez importantes. On est à la fin du 19e siècle. Il va améliorer une expérience celle de la roue dentée qui avait été créée par Hippolyte Fizeau. L'idée, c'est de porter, c'est de mesurer la vitesse de la lumière, et il va introduire un dispositif électrique pour pouvoir enregistrer la vitesse de rotation de cette roue dentée. Et cette célébrité d'Alfred Cornu, elle est établie par trois mesures de la vitesse de la lumière. On est en 1872, on est à la fin du 19e siècle et on arrive, grâce à Alfred Cornu, à mesurer la vitesse de la lumière. C'est quand même assez fascinant. Il est considéré comme l'un des meilleurs opticiens et astronomes français de son époque. Alfred Cornu. Il faut quand même avouer que son nom n'est quand même pas passé à une véritable postérité, sauf pour un petit peu les experts et les fans et les scientifiques de l'optique et de l'astronomie. Mais voilà, il a véritablement pu apporter pas mal de choses dans ce domaine-là. Voilà, c'est Biotine, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui, d'une explosion de cas de méningite en France depuis 3 mois, ça commence à être inquiétant. On va partir aux États-Unis, parce qu'alors aux États-Unis, franchement, ça bouge. Alors ça bouge bien sûr au niveau commercial, évidemment, mais ça bouge aussi au niveau scientifique, parce que on nous parle d'une épidémie d'autisme. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On apprend une suppression de beaucoup de budget au niveau de la recherche climatique. Et ça a été une décision de Donald Trump. On a la NASA qui délaisserait peut-être la Lune pour Mars. Donc il y a pas mal de choses qui se passent aux États-Unis. On a appris également qu'une patiente américaine qui avait eu une greffe de rein de porc, on a dû enlever cette greffe. On en avait parlé il y a quelques mois dans cette émission. Et puis voilà, il y a quand même un long fleuve. La vie est un long fleuve tranquille en Australie, on va parler de ça. Un algorithme qui permettrait peut-être de deviner qui va tuer demain. C'est en Royaume-Uni que ça se passe. La fin de Skype, peut-être la résurrection de BlackBerry, puis si on a le temps, on parlera de cette découverte qui pourrait rouvrir les enquêtes policières. Il y a pas mal de choses effectivement à évoquer dans cette émission aujourd'hui. Si on n'a pas le temps tout évoquer, ce qui est déjà 12h10, on verra ça la semaine prochaine, bien évidemment. Nous sommes là tous les samedis entre 12h et 13h. Il y a une rediffusion tous les mardis matin à 10h. Mon Dieu, on a quand même le temps, grâce à l'équipe de Graphite, pour nous laisser justement la possibilité d'évoquer toutes ces articles si on n'a pas le temps. Mais je voulais commencer cette émission par cette interview assez troublante, assez étonnante et assez peut-être émouvante également de Sébastien Chabal, qui explique: je n'ai aucun souvenir d'une seule seconde d'un match de rugby que j'ai joué, et je ne me souviens pas d'une seule des 62 Marseillaises que j'ai vécues. J'ai quelques souvenirs d'enfance, mais encore, je pense que c'est parce qu'on me les a racontés. C'est des phrases assez glaçantes. Elles ont été donc prononcées par Sébastien Chabal lors d'une interview qui a été diffusée cette semaine, notamment pour l'émission Legend, c'est sur YouTube. L'ancien troisième ligne de rugby ne voit pas l'utilité de consulter un neurologue, ce qu'il dit: allez voir un médecin, pourquoi faire, la mémoire ne reviendra pas. Il est un peu fataliste. Et cette révélation, elle confirme ce qui alerte les médecins du sport depuis plusieurs années, c'est-à-dire que ce ne sont pas les conséquences immédiates d'un choc unique à la tête qui sont problématiques. Les conséquences, ça peut être des maux de tête, ça peut être une perte d'équilibre, ça peut être des troubles passagers de la mémoire, éventuellement une perte de conscience sur l'instant. Mais ce qui est beaucoup plus dramatique, ce sont les conséquences à long terme d'une répétition de ces chocs. Et elles ont été mises en évidence, ces conséquences, en 1928, déjà à l'époque, chez les boxeurs d'ailleurs. On parlait alors de démence pugilistique. Aujourd'hui, on va parler de c'est l'encéphalite traumatique chronique. Ça évoque très bien, là c'est assez clair. On est bien sûr à traumatisme du cerveau et chronique, donc d'une façon prolongée, une atteinte permanente du cerveau causée par une accumulation de commotions cérébrales. Une secousse violente, en fait, ça peut emmener le cerveau à être ballotté dans la boîte crânienne, ce qui va entraîner un cisaillement ou une compression des fibres nerveuses. Alors généralement, elles sont invisibles sur des imageries médicales de type IRM, par exemple. Et ce type de blessure, ça va être aggravé par les chocs qui vont suivre, surtout s'il n'y a pas eu de récupération suffisante entre-temps. Ainsi, le potentiel de régénération du cerveau va être entamé, il ne va pas pouvoir se remettre d'aplomb de façon optimale. parce qu'il va y avoir des secousses qui vont se répéter dans un temps assez court. Et ça ouvre la porte à des phénomènes de dégénérescence progressive des neurones qui vont donc être à l'origine de troubles cognitifs et comportementaux et de problèmes musculaires. Alors cette encéphalite traumatique chronique, elle touche les joueurs de rugby, mais également de boxe, de football, de hockey sur glace et de football américain. On avait parlé des footballeurs américains il y a déjà peut-être quelques années maintenant dans cette émission, parce qu'il y avait un article qui évoquait que ces footballeurs américains développeraient des démences particulièrement tôt, à l'âge de 40 ans, selon Jean-François Sherman, qui est neurologue spécialisé dans les commotions cérébrales. Il y avait eu un article, effectivement, qui évoquait déjà cela il y a quelques années. Le fait que les sportifs soient désormais plus musclés, donc plus lourds, eh bien, tout cela serait à l'origine de chocs plus violent, et c'est ça qui inquiète les médecins. Les pertes de mémoire liées donc à cette encéphalite traumatique chronique peuvent s'accompagner d'autres troubles cognitifs, les pertes de repères, la difficulté à planifier, la difficulté à organiser, la confusion, la distraction. On peut aussi retrouver des changements d'humeur, c'est-à-dire on peut avoir de l'irritabilité d'un côté, on peut avoir des dépressions de l'autre. Il y a également des impulsivités qui peuvent surgir, hein, une agressivité, des emportements, et puis également des troubles musculaires, hein, une mauvaise coordination, des problèmes d'élocution ou alors des problèmes de lenteur des muscles. En décembre 2020, il y avait 230 joueurs professionnels et semi-professionnels qui avaient été diagnostiqués comme souffrant de problèmes cérébraux. Ils avaient lancé une procédure contre différentes fédérations de rugby, notamment anglaises et galloises. Et puis parmi eux, on retrouve Carl Heyman, qui est un ancien All Black, qui a aujourd'hui 45 ans et qui se plaint d'avoir une quantité limitée d'énergie cérébrale par jour. Il y a Steve Thompson, l'ancien talonneur, qui a porté les couleurs de Brive entre 2007 et 2010 et qui souffre aujourd'hui de démence précoce, qui se traduit par des pertes de mémoire et des tendances suicidaires. Il y a également Alex Pofan, qui a 45 ans. Il a vu quant à lui les premiers signes de démence apparaître en 2019 avec des pertes de mémoire et de repères. Et donc là, cette révélation de Sébastien Chabal, ça va entraîner quelques remous bien évidemment, parce que ça commence à être de plus en plus visible, on en parle de plus en plus, et effectivement c'est assez dramatique bien sûr pour tous ces sportifs. Voilà, je voulais commencer cette émission avec... Alors évidemment on ne sait pas encore énormément de choses, c'est juste un constat qui a été fait, et là c'est un témoignage qui a été mis en avant par plusieurs médias. On a quand même pas mal parlé cette semaine dans les médias, c'est une interview qui a été diffusée je crois mercredi en milieu de semaine, donc là en 2-3 jours on a quand même pas mal parlé de Sébastien Chabal. Mais voilà, je voulais... Dans cette émission on avait déjà donc évoqué ces problèmes traumatique au niveau du cerveau chez ces joueurs assez costauds et qui sont donc confrontés à des commotions assez importantes bien évidemment. Il est 12h16 sur l'antenne de Graphite. Bon, on va écouter un peu de musique, hein, et puis on va continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. C'est Biotine, tous les samedis entre 12h et 13h.
Thank you. like you to be the next.
Pleasure, c'était Alt J sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Émission directe aujourd'hui, donc j'ai oublié de donner le numéro de téléphone. Oui, il est ici, je le cherchais dans le studio. 06 95 065 026. Uniquement par SMS, si vous souhaitez réagir à l'actualité du jour, 06 95 065 026. Par SMS, si vous souhaitez voilà, réagir pour cette émission en direct. On revient à l'actualité, alors plutôt médicale, avec donc deux informations. La première concernant Santé publique France, pardon, qui vient d'annoncer que l'augmentation anormale du nombre de cas d'infections invasives à méningocoque, qui avait été observée en décembre et en janvier, elle s'est poursuivie au mois de février. Cette recrudescence qui avait entraîné 95 cas en janvier, 89 en février, c'est-à-dire un niveau largement supérieur à celui de l'année dernière à la même période. C'est une recrudescence qui est donc constatée. Le phénomène serait lié à l'épidémie de grippe qui était particulièrement importante durant cette saison 2024-2025. On sait en effet que le virus grippal augmente le risque de ces infections. Pourquoi c'est inquiétant ? Parce que les infections invasives à méningocoque, elles peuvent provoquer des méningites ou des septicémies, des infections très graves, qui peuvent conduire au décès de 10 à 12% des cas, quand même pas anodin, et des séquelles parfois handicapantes, surtout chez les enfants, dans 20 à 25% des cas. Ces infections, elles sont particulièrement virulentes et elles ont un potentiel de transmission très élevé. La circulation du méningocoque, c'est-à-dire la bactérie à l'origine de ces infections, peut en effet entraîner une multiplication des cas à un même moment et dans une même zone géographique. On parle de clusters, ça nous rappelle certaines choses, des clusters bien évidemment. Deux de ces regroupements ont été observés en France ces dernières semaines, un à Lyon en janvier, notamment chez des étudiants d'un IUT, et un à Rennes en février, chez des étudiants et une famille qui n'avaient pas été en contact, nous dit-on. Des actions ciblées de vaccination peuvent être mises en place, notamment pour vacciner les 15-24 ans du territoire de Rennes Métropole. Depuis le 1er janvier de cette année, chez les nourrissons, la vaccination contre cette bactérie à l'origine du méningocoque sont obligatoires. Et également d'autres vaccinations également qui sont mises en place. Et la Haute Autorité de Santé a annoncé mardi qu'elle préconisait un élargissement de ces vaccins. La vaccination obligatoire étendue jusqu'à 2 ans et un rattrapage jusqu'à 5 ans chez les enfants non vaccinés pour un autre monovaccin. Et chez les adolescents de 11 à 14 ans, la vaccination est recommandée, quelle que soit la vaccination antérieure, et un rattrapage, excusez-moi, un rattrapage vaccinal est recommandé chez les 15-24 ans. Donc voilà, renseignez-vous auprès de votre médecin ou des pharmacies pour en savoir un peu plus. Mais voilà, il y a une explosion de cas de méningite depuis 3 mois qui inquiète les médecins et on n'en sait pas nécessairement encore précisément les causes. Ça, c'est la première information médicale. La deuxième, je vous disais tout à l'heure en sommaire de cette émission, c'est cette américaine qui avait bénéficié d'une greffe de rein de porc. Elle a dû se faire retirer cet organe parce que son corps a commencé à rejeter ce rein après plus de 4 mois, ce qui constitue quand même un record. Hein, c'est ce qu'a annoncé vendredi l'hôpital qui l'a opéré. Là, c'est donc une dépêche de l'AFP que je vous lis. Tawana Looney, qui est une quinquagénaire de l'Alabama, avait été greffée fin novembre d'un rein de porc génétiquement modifié. On en avait parlé dans cette émission à la fin de l'année dernière. C'est une pratique qui est encore très expérimentale, mais qui nourrit l'espoir de pouvoir répondre à la pénurie chronique d'organes. Et donc le fait de retirer cet organe illustre à quel point cet objectif reste encore lointain, bien évidemment, mais ça reste quand même encourageant parce que l'organe a rempli ses fonctions pendant à peu près plus de 4 mois, ce qui est donc un record, car jusqu'à présent, il n'y avait aucun patient qui avait réussi à survivre plus de 2 mois après une telle greffe. Alors la patiente, elle s'exprime dans un communiqué de l'hôpital de New York. « Pour la première fois depuis 2016, j'ai pu profiter de mes amis et de ma famille en ayant le temps, sans devoir tout planifier autour des traitements de dialyse, hein, c'est ce qu'elle explique. Et elle assure qu'elle est très reconnaissante, bien que le résultat ne soit pas celui que tout le monde espérait. » Alors cette mère américaine, en fait, elle avait fait le don en 1999 d'un de ses reins à sa mère. Et donc, elle vivait depuis 8 ans sous dialyse parce qu'il y a une complication qui est survenue lors d'une grossesse qui a endommagé le rein qui lui restait. Et elle n'a pas trouvé de donneur compatible. Et donc, elle a été autorisée à recevoir un rein génétiquement modifié parce que son état de santé se dégradait. Il y a eu des premiers résultats encourageants quand même, oui, parce que depuis fin novembre, effectivement, et pendant 4 mois, ça a fonctionné relativement bien. Mais début avril, elle a connu une diminution de la fonction rénale due à un rejet aigu, c'est ce qu'a déclaré son chirurgien dans un communiqué, il s'appelle Robert Montgomery. La cause de cet épisode de rejet après une longue période de stabilité fait l'objet d'une enquête, mais il a suivi une réduction de son traitement immunosuppresseur afin de traiter une infection sans lien avec le rein du cochon, c'est ce qu'il a détaillé. Et donc ce traitement, ça vise justement à arrêter l'activité du système immunitaire, tout ça pour éviter que le système immunitaire ne s'attaque à l'organe qui est greffé et que il y a un rejet. Sauf que quand on fait ça, eh bien ça affaiblit quand même les capacités de l'organisme à répondre à d'autres menaces extérieures. Donc c'est toujours un mal pour un bien, parce que bien sûr, si vous réduisez votre système immunitaire, ça va être un peu compliqué et donc faut pas attraper d'autres infections. Ça reste quand même assez compliqué. La décision de retirer donc l'organe a été prise par la patiente et les médecins afin de préserver une possibilité future de transplantation pour elle. C'est ce qu'a précisé le docteur Montgomery. Donc c'est peut-être encore possible de pouvoir faire une autre greffe ultérieurement, mais en tout cas c'est d'un point de vue médical assez intéressant parce qu'effectivement on est sur un organe génétiquement modifié et là précisément c'était un rein de porc qu'on a transplanté dans une patiente et ça a duré quand même 4 mois. Alors bien sûr on aurait souhaité que ça soit plus long, mais là c'est une véritable avancée, donc quelque part plutôt quelque chose d'assez encourageant bien évidemment. On va partir aux États-Unis avec pas mal d'informations aux États-Unis. Vous avez peut-être lu ou entendu un petit peu ces déclarations, notamment du ministre de la Santé américain. Il s'appelle Robert Kennedy Jr. Le fils de Robert Kennedy est donc été nommé ministre de la Santé par le président américain Donald Trump. Et il explique une étude de grande ampleur qui révélerait en quelques mois les causes d'une épidémie d'autisme. Il y a quand même pas mal de mots assez particulier, on va dire, dans cette déclaration. Une déclaration qui laisse plus que perplexe beaucoup de scientifiques qui réfutent l'existence même d'une épidémie d'autisme. En tout cas, Robert Kennedy Jr. a annoncé jeudi lancer des travaux de recherche impliquant des centaines de scientifiques du monde entier qui permettra de révéler d'ici septembre les causes de ce qu'il nomme une épidémie d'autisme. Il promet ensuite de les éliminer. Donc une allusion à peine cachée au vaccin, hein, bien sûr, parce que lui, il accuse à tort d'en être responsable. Alors, quiconque prétend résoudre un problème aussi complexe en 5 mois est un escroc, c'est ce qu'a réagi sur X Neil Stone, spécialiste des maladies infectieuses à l'University College Hospital de Londres. Et pour le pédopsychiatre CHU de Montpellier, Hugo Père, et qui a donc été interviewé par l'AFP, il explique que les propos du ministre de la Santé américain montrent une certaine méconnaissance de la littérature scientifique. Alors, en effet, parce que l'autisme, c'est une affection complexe et au spectre très large. L'autisme a été très étudié, les médecins s'interrogent depuis longtemps sur son origine. Il n'existe pas à ce jour de cause unique identifiée, mais plutôt des facteurs, plusieurs facteurs environnementaux qui ont été mis en avant, comme notamment une inflammation au niveau des neurones ou la prise de certains médicaments pendant la grossesse. On pense notamment à la dépakine qui était un antiépileptique. Et puis aussi, l'autisme peut être dû à des prédispositions génétiques. En tout cas, près de 200 gènes ont été associés à l'autisme et environ 80% des cas d'autisme peuvent être liés à des mutations génétiques. C'est ce qu'explique le responsable de l'unité génétique humaine à l'Institut Pasteur, Thomas Bourgeron. Et de son côté, le président américain Donald Trump, il a avancé des pistes contraires aux connaissances scientifiques. Il dit « c'est possible qu'il faille qu'on arrête de prendre quelque chose ou de manger quelque chose, ou peut-être que c'est un vaccin », dit-il. Ok, très bien, il est sûrement scientifique reconnu, on l'a oublié bien évidemment. Et donc, ça commence à faire parler aux États-Unis, notamment l'ONG américaine Autistic Self-Advocacy Network. Cette ONG explique que l'annonce du ministre de la Santé est un message clair, que le ministère de la Santé a l'intention de produire des recherches truquées et frauduleuses qui soutiennent les croyances préexistantes de Kennedy et de Trump sur le lien entre l'autisme et les vaccins, ce qui était donc mentionné dans un communiqué. Le président et son ministre de la Santé se sont en effet fait le relais à plusieurs reprises d'une espèce de théorie fausse sur un lien entre le vaccin ROR, c'est-à-dire le vaccin de la rougeole, des oreillons et de la rubéole, et donc un lien entre ce vaccin et l'autisme. Et cette spéculation est issue d'une étude truquée par son auteur Andrew Wakefield, qui a été dépubliée maintes fois démentie par des travaux postérieurs, ce qui n'empêche pas la désinformation, bien évidemment, sur ce sujet. Une désinformation qui inonde bien sûr les réseaux sociaux. C'est ce que constatent notamment les équipes de vérification de l'AFP, qui est les rédacteurs de cet article que je suis en train de vous lire. Et même, ça a été aussi relayé, ces désinformations, par des dirigeants politiques. Et donc parmi eux, Robert Kennedy Jr., bien évidemment, qui, malgré le consensus scientifique, a ordonné en mars la tenue d'une nouvelle enquête sur le sujet au CDC. Les CDC, c'est la principale agence sanitaire du pays, aux États-Unis. Un des arguments phares repris par les tenants de cette théorie infondée est que les cas augmentent. Alors, effectivement, la prévalence est en effet passée pour les enfants nés en 92 de 1 sur 150 à 1 sur 36 pour ceux qui sont nés en 2012, 30 ans après. Mais pour les spécialistes, pas question de parler d'épidémie. Il y a une distinction importante à faire entre la prévalence réelle, qui correspond à l'état de santé de la population et qui semble stable, à la prévalence mesurée. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que plus vous faites de diagnostics, plus vous allez révéler de cas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existaient pas avant, c'est tout simplement parce qu'on ne les avait pas révélés. Donc effectivement, quelque part, les chiffres, on peut leur donner une interprétation à chaque fois que l'on veut. Ça veut dire que les enfants sont plus malades. C'est tout simplement parce qu'on arrive à révéler plus de cas. C'est tout simplement ça. Les critères de diagnostic ont drastiquement changé ces dernières décennies, avec une prise en compte plus importante des personnes sans déficience intellectuelle et une meilleure détection chez les filles. Les professionnels de santé et les familles sont aussi beaucoup plus attentifs aux troubles du spectre de l'autisme. Donc, effectivement, on a de plus en plus de capacités à pouvoir détecter des personnes concernées. Et donc, selon la nécessité de continuer les recherches sur le sujet, notamment sur la compréhension des facteurs de risque prénatal et périnatal, eh bien, le pédopsychiatre Hugo Père regrette que, je cite, « les facteurs pointés par Robert Kennedy Jr. ont déjà été écartés par la communauté scientifique avec des études de très bonne qualité ». Voilà, donc des scientifiques, une communauté scientifique assez préoccupée après les annonces cette semaine du ministre de la Santé américain sur une prétendue épidémie d'autisme. On utilise maintenant des mots qu'on n'arrive même plus à contrôler, et ne serait-ce qu'à connaître. C'est assez effrayant. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça que ça se passe. C'est le monde actuel dans lequel on vit. On va écouter un peu de musique, parce que ça va nous faire du bien tout de suite sur l'antenne de Graphite.
Sometimes I don't know where I've been. Heart tells me a trip to cloud nine. Headaches says that things just sit on. Driving in the SUV, ADD takes over me. Cruise control, reins full power, so the dolls can play with nose powder. Pull up to another dinner party hosted by Malibu Barbie. Pretty and cream princesses, candy floss, best wishes.
Ah ben ça s'arrête comme ça. ADD et SUV, c'était Ufi sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur le 94.9 pour la bande FM. Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet en direct ou en différé, parce que tous les podcasts sont bien sûr disponibles sur le site Internet de Graphite.net et bien sûr les réseaux sociaux pour vous tenir informés de l'actualité de votre radio curieuse. Biotine, l'émission d'actualité scientifique, on était en train de parler de ce qui se passe aux États-Unis et ça n'est pas fini parce qu'on en avait parlé il y a déjà... il y a peut-être un mois, ça passe tellement vite de cette volonté du président américain de supprimer certains organismes de recherche publique, en tout cas de supprimer les budgets de ces organismes. Et ça continue encore. Là, le gouvernement de Donald Trump veut éliminer la branche de recherche de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Ça s'appelle la NOAA. C'est une entité qui joue un rôle incontournable dans les sciences mondiales du climat. C'est ce qui a donc été annoncé vendredi par une élue démocrate qui tient donc à tirer la sirène d'alarme. Hein. Le plan budgétaire de Trump pour la NOAA est à la fois scandaleux et dangereux. C'est ce qu'a fustigé dans un communiqué Zoé Lofgren, qui est la principale responsable démocrate de la Commission sur la science et la chambre, de la Chambre des représentants. Elle alerte en fait sur la volonté de l'exécutif de supprimer entièrement des services essentiels, dit-elle. Et donc ces coupes drastiques avaient été révélées plus tôt, dans la journée de vendredi, par, donc hier, hein, par CNN et la revue spécialité Science, qui ont eu accès à un document de la Maison-Blanche qui était adressé au Congrès, qui était chargé d'approuver le budget alloué aux différentes agences fédérales. Et s'il était mis en œuvre, eh bien, ce plan pourrait avoir des vastes répercussions parce que la NOAA, donc cette agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, elle occupe une place prépondérante aux États-Unis, mais aussi à l'échelle mondiale, dans l'établissement de prévisions météorologiques sur l'analyse du climat et sur la conservation des océans. Et donc, selon CNN, environ 3/4 des financements de la branche recherche pourraient être supprimés dans le budget de l'année 2026, ce qui mettrait fin à de nombreux programmes, des coupes budgétaires que l'exécutif souhaiterait mettre en œuvre dès cette année, donc que ça serait encore peut-être plus tôt que prévu. Les programmes de recherche concernés servent notamment à la détection précoce d'événements météorologiques majeurs ou encore à la surveillance des effets du changement climatique provoqué par les activités humaines. Des données, des modèles mathématiques qui sont utilisés par des chercheurs, des laboratoires américains, mais aussi au niveau du monde entier. Et bien, du coup, ça commence à être une polémique politique, hein, parce que cette agence américaine, elle est accusée par certains conservateurs d'être, je cite, l'un des principaux moteurs de l'alarmisme climatique. Et donc la NOAA fait l'objet depuis fin janvier à un assaut en règle de la nouvelle administration américaine, hein, le gouvernement de Donald Trump, qui considère le changement climatique comme, je cite, un canular. Il a ainsi initié des licenciements massifs d'employés. Et ce gouvernement a également fait disparaître certaines ressources ou des données climatiques de son site internet. Et cette élue démocrate, elle n'est pas très contente, on va dire. Elle explique: l'hostilité de cette administration envers la recherche et le rejet de la science climatique auront pour conséquence d'éviscérer les capacités de prévision météorologique. Et donc des prévisions qui sont utilisées par le secteur de l'agriculture, bien sûr, mais également par les autorités pour décider, par exemple, de mesures d'évacuation en cas de risque météorologique. Alors, selon plusieurs médias spécialisés, la Maison-Blanche souhaite également réaliser des coupes franches dans le budget d'une branche de la NASA, notamment chargée de l'étude et de la surveillance des effets du changement climatique grâce à des satellites d'observation. Bref, des mesures qui font craindre que les États-Unis ne deviennent une espèce d'ombre en matière de recherche et de surveillance climatique. Mais voilà, ça bouge beaucoup et ça risque d'avoir des répercussions assez importantes au niveau international, bien évidemment. Et puis, comme on est en train de parler des États-Unis, on va y rester parce que on va toujours parler de science et précisément de la NASA, parce que ce serait l'homme d'affaires qui s'appelle Jared Isaacman qui a été choisi par Donald Trump pour prendre la tête de la NASA. Et il a été audité devant une commission de sénateurs, c'était mercredi, et il a expliqué vouloir donner la priorité à l'envoi d'astronautes sur Mars. Ce qui voudrait peut-être dire de faire l'impasse sur la Lune. Et donc depuis mercredi, ça parle pas mal au niveau de la communauté scientifique internationale, parce que y aurait peut-être donc le futur patron de la NASA qui voudrait privilégier Mars au détriment de la Lune. Nous donnerons la priorité à l'envoi d'astronautes américains sur Mars, et en cours de route, nous aurons inévitablement les capacités de retourner sur la Lune. C'est ce qu'a assuré donc Jared Isaacman devant une commission de sénateurs chargé de le confirmer à ce poste. Il a été questionné par les parlementaires sur les implications de ce changement d'objectif. Et donc, Jared Isaacman explique... En fait, il a nié vouloir abandonner la Lune. Pour lui, il est possible de réaliser l'impossible et de poursuivre conjointement ces deux objectifs. Je cite, hein, « Si nous pouvons concentrer nos ressources, la plus grande agence spatiale du monde n'aura pas à prendre de décision binaire entre la Lune et Mars ou la Lune avant Mars. » Et il souhaite, par exemple, c'est ce qu'il a dit, que ses filles voient des astronautes américains marcher sur la Lune. C'est une référence en fait à Artemis, qui est le programme phare de la NASA et qui prévoit le retour des astronautes américains sur la Lune. Ce projet ambitieux et onéreux avait été annoncé en 2017 lors du premier mandat du président américain Donald Trump, ça avait pour objectif d'établir une présence humaine durable sur la Lune et de préparer de futures missions sur Mars. C'était ça qui était prévu au départ. Eh bien, ça change un peu. Ça change un peu parce que déjà, en raison du coût vraiment faramineux, des nombreux retards, il y a eu plusieurs voix critiques au sein du nouveau gouvernement américain qui réclame un petit peu que tout ça soit revu, voire annulé. Et donc, une espèce d'incertitude qui se met en place, une incertitude renforcée par les propos du président américain Trump, qui a promis, je cite, de planter la bannière étoilée sur la planète Mars. C'est ce qu'il a annoncé à plusieurs reprises depuis son retour au pouvoir en janvier. Et il ne mentionne pas la Lune. Elon Musk, qui est quand même le principal conseiller du président américain, qui pourrait jouer un rôle essentiel dans la primauté accordée à Mars. Lui, il est Elon Musk obsédé par Mars. Il est connu pour ses projections très optimistes. En fait, il prévoit de poser sur Mars sa fusée Starship dès 2026. 2026, c'est demain. C'est-à-dire, c'est vraiment très très proche. Et de lancer des missions habitées dès 2028. 2028, c'est aussi demain. C'est quand même assez fascinant. Et donc, réformer ou abandonner Artemis, dans lequel il y a de nombreux partenaires qui sont de nombreux pays qui sont partenaires. Artemis, c'est aller sur la Lune. Si on supprime ça, si on réforme ça, il y a quand même derrière pas mal de partenaires qui vont être chamboulés par ce séisme pour le secteur spatial. Ça pourrait mettre en péril de nombreux emplois et ça explique pourquoi il y a de nombreux élus qui sont opposés. Une telle issue menacerait aussi les ambitions géopolitique des États-Unis, parce que ça avantagerait des acteurs comme la Chine. C'est-à-dire que on pourrait expliquer, en tout cas c'est le sénateur républicain Ted Cruz qui explique, un changement radical de priorité à ce stade conduirait certainement à une lune rouge, ce sont ses propos. J'ai du mal à imaginer une erreur plus catastrophique que de dire à la Chine communiste « la lune vous appartient ». Lune rouge, oui, lune communiste. Et donc si c'est la Chine qui prend le leadership sur ça parce que les Américains abandonneraient la Lune, c'est vrai que ça serait assez étonnant. Donc, le futur patron de la NASA, Jared Isaacman, a tenté d'apaiser ses craintes en assurant vouloir que l'Amérique gagne la course à la domination spatiale tant sur la Lune que sur Mars, c'est ce qu'il annonce. Et après plusieurs reports, la mission Artemis 3, qui doit envoyer les premiers astronautes sur la Lune, serait prévue pour la mi-2027, donc dans 2 ans, on retournerait sur la Lune. Elle sera précédée par la mission Artemis 2 qui, lui, va faire le tour de la Lune sans s'y poser. Ce serait quand même le premier retour d'astronautes sur la Lune depuis la dernière mission Apollo en 1972. Donc 55 ans après, on y retournerait. C'est quand même assez fascinant. Tout changement ferait courir le risque de nouveaux retards et d'offrir un avantage à la Chine, la grande rivale, bien sûr, qui a annoncé vouloir envoyer des hommes sur la Lune d'ici 2030. Mais s'il y a du retard du côté américain, les Chinois qui sont en retard actuellement pourraient du coup prendre la tête de cette course assez fascinante. Il y a 42 ans, Jared Isaacman, c'est un entrepreneur qui a fait fortune dans les paiements en ligne. C'est un milliardaire passionné d'espace. Il a volé à plusieurs reprises dans l'espace à bord de missions privées menées par SpaceX. SpaceX, Elon Musk, évidemment, la boucle bouclée, tout le monde se connaît. Jared Isma, qui est réputé très proche d'Elon Musk. Et en novembre 2024, il est devenu le premier astronaute privé à réaliser une sortie extravéhiculaire, une opération qui est quand même risquée et qui est jusqu'ici réservée aux professionnels. Donc voilà, il va devenir le futur patron de la NASA et il privilégierait Mars au détriment de la Lune. Je vous le dis depuis maintenant plusieurs années, je commence à radoter en fait. La décennie 2020 va être fascinante d'un point de vue spatial et on voit, à chaque fois il y a quand même des choses qui se mettent en place. Donc là on changerait apparemment de stratégie au niveau des États-Unis, mais il n'y a pas que les États-Unis qui sont dans la course et on le voit, la Chine va véritablement rattraper tout cela. C'est passionnant et bien évidemment sur Biotine, on vous tiendra informé de tout cela. On écoute Fontana Rosa sur l'antenne de Graphite et puis on terminera. J'ai peur qu'on n'ait pas le temps de lire tous les articles qui étaient prévus, c'est pas grave, on est là pendant une heure ensemble. Et on est bien.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Et on vient d'écouter Dirt to Dirt de Fontana Rosa sur l'antenne de Graphite. Il est 12h50, il ne reste plus beaucoup de temps alors que je n'ai pas encore plein d'articles à évoquer. Je vous disais pour le sommaire de cette émission qu'on avait parlé de La vie est un long fleuve tranquille. C'est une référence bien sûr au film de Chatillez et ça se passe en Australie. Il y a une clinique australienne de fécondation in vitro qui a admis jeudi soir s'être trompée d'embryon, ce qui a fait qu'une femme a donné naissance à l'enfant d'une autre. J'aimerais dire à quel point je suis désolé pour ce qui est arrivé, c'est ce qu'a déclaré dans un communiqué le directeur de cette clinique de Brisbane, il s'appelle Michael Knapp. Nous sommes tous dévastés au sein de cette clinique et nous nous excusons auprès de toutes les personnes concernées. Nous continuerons à soutenir les patients dans cette période extrêmement pénible. Tu m'étonnes, il y a quand même eu une erreur humaine qui a entraîné, je cite, le transfert incorrect de l'embryon d'une patiente à une autre patiente qui a ensuite accouché, c'est ce que explique le communiqué. L'erreur a été découverte en février quand les parents de l'enfant ont demandé à ce que le reste de leurs embryons en stock soit transféré à une autre clinique. Et le personnel, il a regardé, il a dit, bah, tiens, il y a un embryon en plus que prévu. Ben oui, parce que l'enquête a établi qu'un embryon d'une autre patiente avait été incorrectement décongelé et transféré à la mère. La date de l'incident n'a pas été précisée. L'enquête a révélé qu'une erreur humaine a été commise malgré la mise en place de protocoles de sécurité stricts en laboratoire, y compris des processus d'identification en plusieurs étapes. C'est ce qu'on lit dans le communiqué, donc on se pose un petit peu quelques questions. Comment cela a pu se faire? On n'en sait rien. En tout cas, cette clinique a déclaré avoir informé les patients concernés dans un délai d'une semaine pour leur présenter ses excuses et leur offrir son soutien. Oui, on verra bien ce que ça donne. C'était un communiqué de l'AFP qui date d'hier et qui donc révélait cette information. Autre information, c'est assez, j'allais dire inquiétant, oui, non, en tout cas ça pose question, ce qui se passe au Royaume-Uni depuis janvier 2023, donc un petit peu plus de 2 ans, le gouvernement britannique développe un programme controversé destiné à prédire les meurtres avant qu'ils ne surviennent. Ça nous fait penser à quelque chose. Oui, ça nous fait penser à ce film avec Tom Cruise, qui le film de Spielberg, qui s'appelle Minority Report. Et ben voilà, c'est du concret et ça se passe au Royaume-Uni. Alors, concrètement, l'objectif officiel, c'est d'utiliser des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle pour analyser les données de milliers de personnes et ainsi identifier les personnes qui présentent le plus grand risque de commettre des meurtres ou des actes de violence graves. Et donc l'existence de ce projet a été révélée par une association qui s'appelle State Watch, qui a alerté dans un rapport sur les dangers de cette surveillance algorithmique et les risques de discrimination raciale et socio-économique. Le projet repose sur l'analyse de données personnelles comme le nom, la date de naissance, le sexe, l'origine ethnique, mais aussi des informations sensibles sur la santé mentale, l'automutilation et les antécédents de violences domestiques. C'est ce qu'explique le journal The Guardian. Bien que le ministère de la Justice affirme que seules les données de personnes condamnées sont utilisées, les documents obtenus par cette association State Watch suggèrent que des informations sur des individus non condamnés pourrait aussi être exploité. Et il y a un porte-parole anonyme du ministère de la Justice qui a confirmé l'existence, un porte-parole anonyme du ministère de la Justice, un porte-parole, il n'est pas anonyme, en tout cas c'est France 24 qui annonce ça, qui a confirmé l'existence du projet de recherche, mais a précisé qu'il serait inexact de le décrire comme une tentative de profiler les gens comme des criminels avant qu'ils n'aient commis quoi que ce soit. Et en fait, il qualifie plutôt cela de projet de recherche. Ok, ça c'est de la sémantique, hein, bien sûr. Selon le directeur de l'association State Watch, on ne mène pas ce type de recherche sans avoir l'intention de l'utiliser à l'avenir. Et selon un autre rapport de cette association State Watch, il y a un algorithme similaire qui existe bien depuis 2001 et ce nouveau projet serait une reprise de celui-ci, utilisé actuellement pour prédire le risque de récidive des prisonniers. Cet algorithme génère des scores de risque basés sur des critères tels que l'éducation, le travail, la gestion financière, les relations, le style de vie, puis aussi la consommation de drogue, la consommation d'alcool. Concrètement, un score plus élevé peut conduire à des décisions plus sévères en matière de condamnation, de mise en liberté sous caution, de catégorisation et de libération. Alors, si ce programme de prédiction des comportements criminels venait à être mis en place, il pourrait changer en profondeur notre manière d'aborder la justice et la sécurité. Mais ce futur est-il réellement celui que nous souhaitons ? La question de savoir si une telle technologie protégerait mieux les citoyens ou si elle risquerait de porter atteinte à leurs droits fondamentaux reste ouverte. C'est ce qu'évoque donc Futura Science qui est à l'origine de cet article. Et c'est une bonne question, c'est une vraie question, c'est peut-être même la seule question. On en parle très souvent dans cette émission d'un point de vue scientifique, d'un point de vue technique, d'un point de vue médical. On est sur des prouesses véritablement intéressantes, extraordinaires, bluffantes. D'un point de vue éthique, eh bien, on est un peu en retard. C'est-à-dire que les questions, elles sont à peine évoquées. Alors les réponses, on n'a pas du tout engagé une phase de débat pour apporter des réponses. Sauf que la science, au sens large, elle avance. Et elle ne va pas attendre que des réponses soient apportées sur ces sujets-là. Donc effectivement, quand on voit un article comme celui-ci, un algorithme pour deviner qui va tuer demain l'incroyable projet secret du Royaume-Uni, donc un projet qui n'est plus trop secret maintenant, on se pose quelques questions. Est-ce que c'est vraiment utile, nécessaire ? Est-ce que c'est vraiment ça que l'on veut ? Peut-être pas. Cette émission Biotine, elle n'a pas vocation à dire ce qu'il faut penser ou ne pas penser. Elle vous donne l'information et c'est à vous ensuite de pouvoir faire votre propre choix. Mais je pense que ce genre de sujet mériterait quand même un peu plus d'échanges, de débats, de, je sais pas, un petit peu plus d'implication des citoyens, je pense. Là, ça se passe quand même au Royaume-Uni. On est quand même sur un pays presque similaire à la France. Donc, c'est quand même assez... On peut se poser des questions sur ce qui se fait dans des pays qui communiquent un petit peu moins, mais qui ne sont peut-être pas nécessairement en retard sur ce genre de sujet. Allez savoir. Grosse question, pas de réponse aujourd'hui. En tout cas, on aura toujours dans cette émission vocation à aborder ces sujets parce qu'ils nous concernent tous, tout simplement. Voilà, c'est 17h58 pile. J'ai pas le temps de vous parler de la fin de Skype et peut-être de la résurrection de BlackBerry. On parlera de cela la semaine prochaine à 12h pour la prochaine émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. D'ici là, bien sûr, mais vous nous suivez sur 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur l'Amour FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite de passer encore une bonne journée ensoleillée si vous avez la chance d'avoir le soleil là où vous êtes aujourd'hui. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.